un sujet, les grandes choses que Dieu a fait pour nous. Dieu agit dans nos vies, voilà, ça marche. Dieu agit dans nos vies, Dieu fait, Dieu est vivant, nous le savons, et je voulais juste donner quelques pensées, puis ce ne sera pas très long, sur ce qu'on doit faire de ces bienfaits de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive, qui passe, puis qu'on oublie? Voilà ce que Dieu pense pour nous. Alors, nous sommes dans un pays où il y a eu la Révolution française, où on est des râleurs. On a vu l'histoire des Gilets jaunes pendant une année presque, et puis ça continue d'ailleurs. Et on est jamais content. On n'est jamais content de nos gouvernements, jamais content de nos états, de nos situations où on est. Rien ne va. Je suis même remonté plus loin. Ça vient d'où? Est-ce que c'est les gènes d'être français? C'est possible, finalement. Pour nous, chrétiens, évangéliques, il y a peut-être aussi autre chose. On est issu du protestantisme. Les protestants, c'était finalement des gens qui ont contesté pour une bonne cause, mais qui ont contesté. Et tous ces jeunes réunis font peut-être qu'on est des râleurs dans le sud de la France aussi. Donc tout réuni, finalement, vous comprenez pourquoi on est des râleurs. Et pourtant, Dieu fait des grandes choses. Dieu fait des belles choses. Alors, ça vaut la peine de se tourner et de regarder ce que Dieu a fait. Je pensais à cet exemple de Marie. Marie, dans l'évangile de Luc, il y a un ange qui lui est apparu, et cet ange est venu lui dire, le Saint-Être qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et Marie comprend qu'elle est celle qui va porter le Seigneur Jésus. Alors, elle va dire, chapitre 1er, verset 41 de l'évangile de Luc, une louange, mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur, car il a regardé l'humble état de son esclave. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Puissant m'a fait de grandes choses, et son nom est saint, et sa miséricorde est de génération en génération sur ceux qui le craignent. On ne parle pas souvent de Marie, et puis je n'ai pas l'intention d'idolâtrer Marie. Marie était quand même, on voit dans ce texte, et c'est celle qui a porté notre Seigneur. Et certainement, c'était une sainte femme. Et quand elle a entendu ce message de l'ange, elle aurait pu dire, je méritais, j'ai une bonne façon de me conduire, je suis bien, je méritais que ce soit moi qui porte le Seigneur. Le Fils de Dieu. Non, elle va se tourner vers Dieu, elle va parler de l'humble état. Elle se sent la plus petite. Elle se sent esclave de Dieu. Quelqu'un de petit, et Dieu en a fait quelqu'un de grand. Et alors, elle va remercier pour ces grandes choses que Dieu a permis dans sa vie. Marie ne méritait pas, c'était un cadeau de Dieu, mais Marie était quand même une femme avec des grandes qualités et une grande piété. Dans les psaumes, il est parlé des captifs qui étaient restés à Jérusalem, qui avaient été en captivité pendant 70 ans, et puis il y a eu un roi qui a accepté, ce qu'on a lu un petit peu dimanche passé avec Néhémie, qui a accepté que les murailles de Jérusalem soient reconstruites et que la ville puisse être à nouveau réhabitée. Et les captifs, dans le psaume 126, ils vont être remplis de cette louange pour ces choses que Dieu a fait. Au verset 1 du psaume 126, « Car l'Éternel rétablit les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui songent. » Ça leur paraissait sûrement impossible. Mais de suite au verset 2, « Alors notre bouche fut remplie de rire, notre langue de chant de joie. Alors on dit parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour ceux-ci. » Et au verset 3, c'était eux, ceux-ci. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous, nous en avons été réjouis. C'est cette reconnaissance de cet acte, de ce que Dieu a fait, une chose si grande, un peuple qui est resté pendant 70 ans en captivité, qui va pouvoir retourner dans son pays, le pays va se reconstruire, ces captifs qui arrivent en liberté. Est-ce que nous ne sommes pas tous des captifs devenus libres? Et nos cœurs peuvent être reconnaissants de ces grandes choses que Dieu a fait dans nos vies. Nous pouvons nous en réjouir. Ce dernier verset, ce verset 3 affiché ici, c'est le verset que nous avions sous notre faire-part de mariage, que beaucoup le mettent d'ailleurs, mais on avait choisi quand même. On n'a pas copié ce que faisaient les autres, et on trouvait que Dieu avait fait de grandes choses pour nous. Alors je ne dis pas ça parce que Marie-Claire est couchée aujourd'hui, c'est vrai, on le pensait et on le pense encore. Et je me souviens qu'à l'époque on s'écrivait, il n'y avait pas les mails, c'était encore le courrier, même si on se voyait une fois par semaine, on s'écrivait entre temps. Hein. Dans une lettre, Marie-Claire m'avait dit, c'est le psaume 30 au verset 18, il y a trois choses qui sont trop merveilleuses pour moi. Et il en est quatre que je ne puis connaître, le chemin de l'aigle dans le ciel, dans les cieux, le chemin du serpent sur le rocher, le chemin de navire au cœur de la mer, et le chemin de l'homme ou du jeune homme vers la jeune fille. Et c'est vrai que c'est quelque chose de merveilleux lorsque on ne s'y attend pas vraiment, et puis qu'il y a cette rencontre, une rencontre permise par Dieu, le jeune homme ou la jeune fille vers le jeune homme, ou l'inverse, c'est quelque chose de beau, et c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Ce sont des grandes choses qui sont utiles dans notre vie de couple, savoir se souvenir, savoir garder, et dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. Alors pour revenir à Marie, eh bien on voit en Luc chapitre 2, verset 19, le petit enfant est arrivé, et il y a des anges qui vont venir, des bergers qui vont venir voir Marie et Joseph, et Marie va dire, Luc 2, verset 19, c'est écrit plutôt son mari, « Marie gardait toutes ces choses par-devers elle, et elle les repassant dans son cœur. » Et puis après les bergers s'en retournèrent, glorifiant Dieu, louant Dieu de toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues, selon qu'il leur en avait été parlé. Marie, elle a vécu quelque chose de formidable, et c'est pas quelque chose qu'elle va laisser de côté, elle va pas, quelque chose qu'elle ne va pas oublier. Elle va les garder dans son cœur, elle va les repasser, elle va se rappeler de ces choses, se les redire. Et on peut imaginer le moment où sur la croix, le Seigneur était sur la croix, son Fils était là sur la croix, et Marie était en bas, et on peut imaginer que ces choses qui étaient si importantes dans sa vie, pour elle, qu'elle a pu garder et repasser dans son cœur, ces choses ont dû ressortir. C'était le chemin de ce Fils envoyé par Dieu, de ce Fils promis, de ce Messie, du Sauveur d'Israël, de son Sauveur. C'était ce chemin qui était prévu par les prophètes, qui avait été annoncé. Et alors si Marie n'a pas été préparée, quelle souffrance, quelle douleur, même si elle y était la douleur terrestre, elle y est toujours lorsqu'on perd un être cher, mais il y a cette espérance comme une ancre de l'âme. Alors j'ai mis « ne pas oublier les belles choses ». On peut quelquefois se gargariser de mauvaises choses, perdre son temps finalement. Et c'est peut-être le cerveau qui les garde. Mais Dieu nous invite, la parole de Dieu nous invite à garder les belles choses, à les repasser dans nos cœurs. C'est pas pour ressasser le passé, mais les belles choses, il faut savoir s'en rappeler et dire que c'est Dieu, notre Dieu, qui a permis cela. Alors, pourquoi les garder? Alors, je vous ai mis ici un verset, j'ai mis que c'était un commandement du Seigneur. Alors, ce n'est pas un commandement de garder ces belles choses du Seigneur, mais Matthieu 22, verset 35, il y a un des docteurs de la loi qui interroge Jésus pour l'éprouver, qui va lui dire, « Maître, quel est le grand commandement dans la loi ?» Et Jésus va lui répondre, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est là le grand et le premier commandement. Et le second lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent la loi tout entière et les prophètes. Alors, ici, c'est l'amour. Le premier commandement, c'est le commandement de l'amour. Qu'est-ce que Dieu aurait pu demander? Tu garderas, puis donner tout un tas, toute une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Non, Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, le commandement de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Et puis le second lui est semblable, ton prochain comme toi-même. Voilà, et de ces deux commandements, eh bien tout dépend. C'est notre vie chrétienne, c'est notre vie de foi, notre vie d'amour. Alors, pourquoi garder ce commandement? Eh bien, c'est un devoir, le devoir d'aimer. Tu aimeras, c'est un commandement, c'est Dieu qui nous le dit. Est-ce que c'est difficile? Non, parce qu'il y a eu des choses dans notre vie passée. On a rencontré le Seigneur, on nous a dit il y a quelques dimanches qu'on ne pouvait pas toujours reparler de la conversion. C'est vrai, mais c'est aussi une grande chose que Dieu a faite dans nos vies. Et si c'est quelque chose qui nous a bien marqué, eh bien on peut aussi le redire. Eh bien, le commandement de l'amour, lorsqu'on a gardé les choses que Dieu a fait pour nous, eh bien le commandement de l'amour, c'est un commandement facile. Tu aimeras, bien sûr que j'aimerai. Mon Dieu, tu as tout fait pour moi. Un autre exemple, dans un mariage, je crois que c'était le mariage d'Adrien et Sylvie, je ne pense pas que c'était au vôtre, ni au vôtre. Dans un des mariages, j'avais parlé de cette soupape de sécurité. Dans les cocottes minutes, alors maintenant il y a les Cookeo et puis beaucoup d'appareils ultra modernes, mais dans les cocottes minutes, autrefois, il y avait deux soupapes de sécurité. Et une soupape qu'on connaît bien tous, qui tourne au-dessus, et puis une autre soupape qui est vraiment la sécurité de la sécurité. Donc la première permet de faire évacuer tout l'air, et la seconde soupape, si la première ne fonctionne pas, c'est elle qui va dire, il y a un gros problème, il faut vite changer ta cocotte. Voilà, donc cette soupape, elle est là, au cas où. Dans le livre d'Épître aux Éphésiens, il est parlé au chapitre 5, au verset 18, un ordre. Marie, aimez vos femmes. Les maris doivent aimer leurs propres femmes. Alors, c'est la même chose pour les femmes, bien sûr. Comme leur propre corps, celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. S'aime lui-même. Vous voyez le commandement. On doit aimer sa femme parce que ça veut dire qu'on s'aime nous-mêmes. Car personne n'a haï sa propre chair, mais il a nourri et la chérie, comme aussi le Christ l'Assemblée. Alors, pourquoi ce commandement? Ça paraît tellement logique d'aimer sa femme. Eh bien, il peut y avoir des hauts et des bas dans la vie chrétienne ou dans la vie de couple. Et lorsqu'il y a des bas, pensons à ce commandement de l'amour. Tu dois aimer ta femme et à ce moment-là, certainement, tout ce passé, toutes ces choses qu'on aura gardées dans son cœur sur notre vie de couple, par exemple, sur la rencontre, sur des belles choses, des réponses de Dieu dans nos prières, ensemble, eh bien, ce sont des choses qui feront que le couple va tenir. Et puis, il ne faut pas rester dans ces creux de la vague, il faut vite, vite remettre les choses en place et de nouveau que tout aille bien. Mais dans la vie chrétienne, c'est pareil. On peut avoir des moments où on est un peu accaparé par certaines choses, certains soucis, certaines choses de la vie, peut-être le travail. Eh bien, à ce moment-là, peut-être qu'on sera au bas, au creux de la vague. Et Dieu nous dit, premier commandement, aimez Dieu. On l'a lu tout à l'heure. Donc vous voyez, cette soupape de sécurité, c'est le commandement de l'amour. Pourquoi? Pour qu'on puisse, au cas où, si on en a besoin, mais c'est seulement pour ça. On n'a pas besoin de commandement pour s'aimer entre nous, pas besoin de commandement pour aimer notre conjoint, pas besoin de commandement pour aimer Dieu, puisque nous avons tellement de choses que Dieu a fait pour nous, ou qu'il y a eu dans nos couples, ou dans nos églises. On va passer à la troisième partie, raconter. Alors, je l'ai dit, pourquoi garder? Eh bien, garder pour raconter aux autres. Psaume 145, au verset 4, une génération célébrera tes œuvres auprès de l'autre génération. Ici, il y a plusieurs générations, nous avons des familles pour beaucoup d'entre nous, grâce à Dieu. Eh bien, dans la famille, on raconte à nos enfants, on l'a vu il y a 15 jours, 3 semaines, pour la présentation des enfants, on raconte à nos enfants qui, eux, vont le raconter aux leurs. Ce sont des choses qui sont importantes. On raconte ce que Dieu a fait dans nos vies, ce que Dieu fait, ce que Dieu est. On raconte ces grandes choses. Elles raconteront une génération auprès d'autres générations, tes actes puissants. On a envie de rajouter au Dieu, je parlerai de la magnificence glorieuse de ta majesté et de tes actes merveilleux. Des choses qu'on ne peut pas oublier, qu'on a gardées, qu'on a ressassées, qu'on a répétées, qu'on a mis de côté dans nos cœurs et qu'on ressort régulièrement. C'est quelque chose qu'on ne doit pas garder pour nous, c'est pas quelque chose qu'on met au congélateur, mais c'est quelque chose qu'on garde dans nos cœurs pour pouvoir le dire et le redire. Raconter aussi pour encourager. Mes frères, mes sœurs, Actes chapitre 21, verset 19, quand on va dans les Actes, ou même dans les Évangiles, on voit souvent les disciples qui retournent vers le Seigneur pour raconter ce qu'ils ont vu. On voit dans le livre des Actes, pareil, les disciples qui racontent à l'église, à une église, ou qui racontent à des particuliers ce que Dieu a fait pour eux. Actes 21, verset 19, il raconta, alors c'est Paul je crois, il raconta une à une les choses que Dieu avait faites parmi les nations par son service. Il y a plusieurs choses là-dedans. C'est Paul qui raconte les choses que Dieu a faites parmi les nations, donc dans le monde, par son service, mais il est qu'un petit outil pour Dieu. C'est Dieu qui les a faites. Et ces grandes choses que Paul a connues, eh bien, il ne veut pas les garder pour lui. Il veut les raconter à d'autres. Il veut les redire ce que Dieu a fait, redire ce que Dieu a fait dans sa vie. Et il va aller le raconter. Actes, j'ai mis deux exemples seulement ici. Acte 14, c'est Paul et Barnabas, au verset 27. Et étant arrivés, et ayant réuni l'assemblée, ils racontèrent. L'assemblée qui se réunit autour de ces deux missionnaires un peu qui voyageaient, eh bien, ils arrivent, et c'est Antioche, je crois, et ils racontent ce que Dieu, les choses que Dieu a faites avec eux. C'est encore des instruments, mais c'est Dieu qui les a faites. Et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Dans ces périodes de grande persécution, comme on en connaît d'ailleurs actuellement dans le monde, eh bien, on voit des hommes ici qui vont aller raconter ce que Dieu a fait. Au péril de leur vie, ils vont quand même raconter. Parce que pour eux, c'est plus fort. C'est pas quelque chose qui était pour un temps. C'est pas quelque chose qui s'est passé. Et puis qu'après, avec du recul, on se dit, non, mais finalement, c'est pas Dieu qui a agi. C'est peut-être parce qu'il y a eu telle situation, telle que telle. Non, c'est Dieu qui a agi et je veux le raconter. Pourquoi garder, raconter à Dieu ? Ce qu'on raconte à nos enfants, ce qu'on raconte aux hommes, aux frères, aux sœurs, ce qu'on raconte aux hommes qui sont proches de nous, eh bien, on peut aussi raconter à Dieu. Et là, c'est la louange. C'est ce qu'on a fait ce matin, ce qu'on peut faire tous les jours de nos vies. Ce qu'on peut faire le matin en se levant, ce qu'on peut faire le soir en se couchant, ce qu'on peut faire dans la journée lorsque les circonstances sont belles, sont bonnes, lorsqu'on doit se remettre à Dieu. Luc chapitre 2, verset 19, on a vu Marie qui garde ces choses, qui les repasse, et puis après les bergers qui vont partir glorifiant Dieu et louant Dieu. Les bergers aussi ont vu des choses formidables. Ils ont vu ce petit enfant et ils ont su reconnaître ce que les prophètes avaient dit autrefois en parlant de ce Jésus qui allait venir. Les bergers ont reconnu le Seigneur dans ce petit enfant. Tout ça parce que Dieu a agi, c'est l'Esprit qui a agi dans le cœur de ces bergers. Et ils vont repartir en louant et en glorifiant Dieu. C'est le cœur qui ne peut pas garder pour soi cette grande chose que Dieu a fait. Acte chapitre 2, on voit les disciples, je ne sais plus lesquels, qui prenaient tous ensemble, qui prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Ils ont leur cœur rempli de cette louange, des choses qu'ils venaient de vivre, des choses qu'ils venaient de voir. Leur Seigneur avait été crucifié, mais il était ressuscité. Et il était remonté au ciel. C'était le Seigneur de gloire. Et c'est notre Seigneur. Et ils ne peuvent pas rester insensibles. Ensemble, ils vont prendre leur nourriture, avec joie, avec simplicité de cœur. Pas de choses compliquées, mais louant Dieu. Et voilà, je peux me dire que même si j'ai des gènes de râleur, comme on l'a vu au début, eh bien Dieu veut nous donner d'autres gènes. Et il nous les a donnés. Il a transformé nos vies. Nous sommes une nouvelle nature, une nouvelle création lorsque nous tournons vers Dieu. Et alors, comme Marie, nous pouvons dire, Seigneur, accorde-moi de savoir garder, de savoir repasser dans mon cœur les grandes choses que tu as faites. Et alors, je vous ai remis ce verset, que l'on trouve toujours aussi beau. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous en avons été réjouis. Alors, gardons, faisons fructifier et racontons et louons ensemble, et chacun aussi pour soi, notre Dieu et notre Père et notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.